Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Durant plusieurs émissions, nous allons nous demander quelle est la place du chrétien dans la société dans laquelle il vit et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que le chrétien ne devrait pas se retirer du monde. Au contraire, Jésus nous envoie dans le monde afin d'y exercer une influence positive. Nous en apprendrons davantage aujourd'hui en nous penchant sur l'enseignement de Jésus donné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 15.
Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.
Dans ce discours, Jésus compare ses disciples au sel et à la lumière. Nous allons donc chercher à comprendre la signification de ces images.
Commençons donc par le sel.
À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, le sel servait à conserver les aliments tels que le poisson et la viande. Nous savons par exemple que la viande s'avarie rapidement et particulièrement dans les pays où le climat est chaud et où les gens ne disposent pas de réfrigérateur. Cependant, en traitant la viande avec du sel, elle demeure bonne à la consommation pendant une durée plus importante.
Devons-nous alors comprendre que la présence des chrétiens dans la société la préserve du mal?
Pas entièrement, mais le chrétien peut exercer une influence positive en ralentissant la progression de certains maux et en apportant le bien.
Donnez-nous quelques exemples afin que nous puissions mieux comprendre vos propos.
Un chrétien qui comprend les dangers de l'immoralité sexuelle et du sida, des drogues et de l'alcool, commencera par avertir ses propres enfants de ces dangers. Mais son influence peut s'étendre au-delà de sa propre famille. En liant amitié avec d'autres jeunes du quartier et en gagnant leur confiance, un chrétien peut les aider à comprendre ces dangers et à s'en abstenir. Le chrétien peut aussi travailler au sein d'associations qui œuvrent dans le sens de l'éducation et de la prévention. Un deuxième exemple, les chrétiens devraient se comporter en hommes et femmes honnêtes et intègres. Leur exemple et leur influence dans le monde du travail peuvent en interpeller d'autres et les encourager à abandonner toute forme de corruption et d'injustice. Un dernier exemple, le chrétien offensé doit pardonner au lieu de recourir à la vengeance. Au lieu d'attiser les conflits, il doit chercher à résoudre les problèmes de façon paisible et promouvoir la réconciliation. De telles démarches encouragent la bonne entente et peuvent aider les familles ou les communautés à sortir du cercle vicieux de la violence.
Merci pour ces exemples. Ils nous aident à comprendre la façon dont notre influence peut réduire l'impact du péché et du mal autour de nous. Cependant, Jésus mentionne le sel qui perd sa saveur et qui ne sert plus à rien. Comment comprendre cette éclaration?
Jésus évoque probablement le cas où les réserves en sel se sont tellement mélangées à d'autres produits et impuretés que le sel n'a plus d'effet.
Autrement dit, si le chrétien se souille en faisant comme le monde, s'il pratique le péché, il n'exercera plus une bonne influence autour de lui.
C'est exact, Yann. Il est essentiel que le chrétien soit différent et distinct de ceux qui l'entourent. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre ses paroles et son comportement. S'il demeure lui-même dans l'immoralité, il ne pourra plus encourager ceux qui la pratiquent à en sortir. Et comment dénoncer la corruption si soi-même on est malhonnête? Et si nous refusons aussi de pardonner à ceux qui nous offensent, comment peut-on réussir à promouvoir la paix et la réconciliation ?
Oui, je comprends l'importance de vos propos. Mais le temps s'écoule et nous n'avons pas encore parlé de la lumière. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». En quoi cette illustration est-elle différente de celle du sel ?
Je pense que les leçons sont essentiellement les mêmes, mais cette illustration concernant la lumière apporte un élément plus important encore. La lumière représente tout ce qui est bon, la vérité et la pureté, la justice et l'amour. Ainsi, le chrétien exerce une influence positive dans le monde dès le moment où il peut vivre ses belles vertus de façon visible. Et tout comme Jésus, je veux insister pour affirmer que ces vertus associées à la lumière doivent se voir dans nos vies. Jésus évoque la situation ridicule d'une lampe que l'on allume et qu'on laisse cacher sous un pot en terre cuite. Ainsi, elle ne sert plus à rien. De même, si un chrétien ne vit pas sa foi ouvertement, il n'exercera pas une bonne influence dans le monde.
Il y a là un parallèle avec le sel qui perd de sa saveur.
Tout à fait, Yann.
Vous avez mentionné tout à l'heure que l'illustration de la lumière nous amène plus loin encore que l'image du sel. Pouvez-vous vous expliquer sur ce point ?
Oui. L'image de la lumière apporte une dimension spirituelle. Car Jésus déclare que, dans la mesure où la lumière brillera dans nos vies, les gens apercevront un élément de la gloire de Dieu. Autrement dit, notre façon de vivre, nos bonnes œuvres ainsi que nos paroles doivent diriger les regards de tous vers Dieu. Or, cela ne devient possible que si nous reflétons quelque chose du caractère de Dieu. L'amour, la justice, la miséricorde, la vérité, la patience, la fidélité, voilà des exemples parmi beaucoup d'autres.
Et pourquoi est-il important de souligner cette dimension spirituelle ?
D'une part, la meilleure chose que nous pouvons faire pour une personne, c'est lui révéler quelque chose du caractère de Dieu. C'est la conduire à l'Éternel. D'autre part, celui qui se tourne vers le Seigneur pour chercher son aide aura sa vie transformée et recherchera le bien. Une telle transformation durera jusqu'au retour du Seigneur si elle est accompagnée d'une véritable transformation spirituelle.
Merci Robin pour ces leçons qui nous montrent la façon dont nous pouvons avoir une bonne influence autour de nous. La prochaine fois, nous réfléchirons sur l'exhortation biblique « Aimer son prochain ».
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris la dernière fois que le fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera dans un premier temps la façon dont Jésus demeure pour nous, un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, nous allons parler de la première qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de l'amour, et je cède la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction. Et bonjour à tous. En quoi Jésus est-il donc un exemple d'amour ? Et comment faire le tour de cette question en 3 minutes ? Voilà un véritable défi. L'apôtre Jean déclare « Dieu est amour » et nous pouvons affirmer que Jésus-Christ est la manifestation même de cet amour de Dieu. Le mot grec, traduit en français par « amour », est « agapé », qu'il convient de définir clairement et qu'il importe de distinguer des significations communes telles que l'attirance physique, sentimentale ou esthétique. En effet, le mot grec « agapé » désigne l'amour qui consiste à reconnaître les besoins de l'autre et qui désire se donner de façon désintéressée pour le servir et répondre à ses attentes. Nous pourrions définir cet amour par les trois mots suivants « compassion »,« générosité » et « sacrifice ». Si vous avez eu l'occasion de lire les évangiles, ces livres bibliques qui relatent la vie de Jésus, vous aurez alors constaté que Jésus aimait les gens d'un amour sans pareil et sans jamais s'en lasser. Il éprouvait de la compassion envers les foules qui le suivaient. Il comprenait la souffrance des hommes et des femmes. Jamais il n'a méprisé leurs besoins. Bien au contraire, il venait au secours de tous. Il était l'ami des faibles, des vulnérables et des marginalisés. Il allait à la rencontre de chaque individu, riche ou pauvre, homme ou femme, mauvais ou bon. Il connaissait les véritables besoins de chacun et il désirait conduire tout homme vers une vie meilleure. Mais considérons à présent la générosité de Jésus. Il déploya sa toute-puissance afin d'apporter des solutions concrètes et appropriées à chacun. Il guérit parfaitement des multitudes de personnes, de leurs maladies et de leurs handicaps. Il délivra nombre de personnes de l'emprise d'esprits mauvais. De façon miraculeuse, il nourrit des foules affamées, leur prouvant sa générosité. Il pardonna les coupables de leurs péchés et les soulagea ainsi de leur lourd fardeau. Et enfin, pensons à la vie parsemée de sacrifices que mena Jésus. Il accepta de renoncer à tant de privilèges afin de servir les intérêts des hommes. Il délaissa ses richesses dans les lieux célestes afin de partager notre existence malheureuse sur cette terre. Il nous accorda son temps, nous donna son énergie afin de nous aimer. Il refusa une vie aisée et confortable. Souvent, il se priva d'un repos bien mérité afin de répondre aux besoins les plus urgents. Or, si sa vie constitue en soi un immense sacrifice, que dire de sa mort, qui en est l'expression suprême? Mais nous en parlerons la prochaine fois, car il s'agit là d'un don de soi, d'un don d'amour. En attendant, nous espérons que ces brèves remarques sur la vie de Jésus vous aideront à mieux comprendre le sens biblique du mot « amour » et qu'elles vous laisseront un exemple à suivre.
Merci Étienne. Nous serons heureux de vous retrouver la prochaine fois.
Sur ce, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.